Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler de la prise en charge des enfants victimes de violences, illustrer cette réalité encore souvent passée sous silence, alors que le phénomène constitue un véritable problème de société, véritable problème de santé publique, puisqu'en France, par exemple, un enfant sur 10 a une fois au moins dans sa vie été confronté à des violences. Illustration aujourd'hui avec le reportage réalisé par Charlie Dupiot au CHU de Nantes, l'un des premiers hôpitaux français à s'être doté en 2000 d'une unité spéciale d'accueil pour les enfants en danger. Sa vocation, dépister au plus tôt les violences, lors du passage de l'enfant à l'hôpital pour une fracture par exemple, mais aussi accueillir dans une salle dédiée policiers et gendarmes venus entendre les enfants victimes afin de leur éviter de se rendre dans un commissariat. Comment mieux repérer les signes de violence physique et sexuelle sur des victimes mineures perpétrées dans 90% des cas par un membre du cercle familial? Médecins scolaires, médecins de famille, policiers, quel rôle pour chaque maillon de la chaîne impliqué dans la protection de ces enfants? Reportage donc de Charlie Dupiot au sein de cette unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes pour donner la parole aux médecins, aux puéricultrices, gendarmes, parents et enfants victimes qui témoignent anonymement. Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
La question de l'anonymat, eh bien c'est très important lorsque l'on aborde un sujet qui implique des enfants. Ces mineurs, il faut les protéger. Alors Charlie, comment recueillir la parole de ces enfants ?
Alors j'ai pu assister à plusieurs auditions filmées. Une loi de 1998, la loi Guigou, impose en fait l'enregistrement filmé de la première audition d'un enfant qui est présumé victime de violences sexuelles pour qu'il n'ait pas à répéter son récit plusieurs fois et puis pour que sa parole ne soit pas dénaturée. Ces enregistrements peuvent avoir lieu dans les locaux de la gendarmerie ou de la police. Ils sont retranscrits à l'écrit. Mais depuis 2010, cette unité d'accueil des enfants en danger de Nantes a ouvert une salle d'enregistrement dédié pour ces enfants victimes de violences sexuelles, mais aussi de violences physiques. Et nous avons choisi, avec l'accord de l'équipe médicale, de réenregistrer plusieurs extraits de ces auditions en préservant complètement l'anonymat des victimes, en enlevant bien sûr les noms, les lieux et puis les éléments trop précis, pour simplement donner une idée des faits qui passent à travers cette unité. Et la première audition à laquelle j'ai pu assister, c'est celle de cette adolescente hospitalisée en urgence la semaine précédente après des violences intra familiale. C'est une patrouille de police qui est intervenue à son domicile et qui l'a emmenée à l'hôpital. Un signalement a été fait. T-shirt, jean, basket, les cheveux attachés. La jeune fille a les coudes sur les accoudoirs de son fauteuil et les mains qui se touchent, nerveuses. Extrait choisi.
Je venais de rentrer de chez une amie parce que j'avais dormi chez elle, ce qui fait que j'avais un sac. Et le sac, je l'ai laissé dans l'entrée et j'avais des cosmétiques dedans. Et en fait, ma petite sœur, elle a fouillé dedans, donc elle a pris mes affaires. Et elle veut tout le temps tout mettre dans sa bouche, donc surtout les trucs dangereux en fait. Ce qui fait que je lui ai dit d'aller me chercher ce qu'elle avait pris. Du coup, je l'ai grondée, elle s'est mise à pleurer. Et lui, il a compris que je l'avais frappée. Alors que...
Pourquoi tu dis qu'il a compris que tu l'avais frappée ?
Parce qu'elle s'est mise à pleurer vraiment fort. Mais en fait, quand elle pleure fort, pour moi, c'est qu'elle comprend que ce qu'elle fait, c'est pas bien.
Donc là, elle pleure très fort. Ton papa, il est arrivé ?
Oui, et pour lui, je l'avais frappé. Et du coup, il commence à s'en prendre à moi, commence à me crier dessus. Et comme ma cousine est intervenue, elle s'est mise entre nous. Il a commencé à me mettre des gifles. Enfin, il me mettait des coups, il essayait juste de me toucher. Parce que comme elle était devant, et qu'elle était assez grande aussi, il faisait ce qu'il pouvait pour me frapper. Après...
Alors, il t'a frappé, il t'a mis des gifles ou pas ?
Oui, mon ami.
Il t'en a mis combien ?
Je sais pas. En tout cas, il m'en a mis plusieurs.
Donc il a essayé, il t'a mis des gifles, et après ?
Après, ma cousine, elle m'a emmenée dans la cuisine pour nous séparer. Lui, il m'a suivi, parce qu'il voulait toujours continuer. Elle, elle s'est toujours interposée. Bah, il continuait à me mettre des gifles. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a mise par terre. Et m'a donné des coups dans le dos.
Il t'a donné quoi comme coups dans le dos ?
Des mains à plat, des coups de poing aussi. Pendant un an et demi, je lui parlais plus.
Alors pourquoi tu lui as pas parlé pendant un an et demi ?
Parce qu'il avait commencé à me frapper.
Et il te frappait pourquoi ?
Franchement, au début, je savais même pas. Je sais pas vraiment aujourd'hui, en fait.
D'accord, ça fait un an et demi que ton père lève la main sur toi. C'est ça que tu veux nous dire ? Et comment il te frappe ?
Ça dépend. Des fois, il me prend juste, il me jette par terre, des fois.
Qu'est-ce qui pourrait être mis en place ? Là, il va bien falloir qu'on trouve une solution. Tu vas bien rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, toi ?
Je sais pas.
Parce que là, tu nous dis que ton papa, il te tire les cheveux, qu'il te donne des claques. Tu sais pas combien, mais qu'il te donne des claques. Que ça fait depuis un an et demi qu'il peut être violent avec toi, mais tu sais pas pourquoi.
En fait, souvent, quand il y a des trucs qui arrivent dans sa vie, genre des événements, bah, il sait pas contrôler ses émotions. Et après, il est obligé de se venger sur nous.
D'accord. Mais il sait pas contrôler ses émotions sur quoi ?
Je sais pas. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal dans sa vie, par rapport au travail.
Au travail ? Pourquoi ? Parce qu'au travail, ça se passe pas bien ?
Il y a un moment donné où, d'après ce que j'ai compris, il travaillait plus à un moment. Et pendant ce moment-là, il y a eu beaucoup de violence.
Extrait donc réenregistré d'une audition filmée d'un enfant présumé victime de violences commises par son père. On perçoit bien, hein, Charlie, que la policière qui mène l'audition ne veut pas orienter les réponses de cette jeune fille.
Non, en effet. Et après l'entretien, elle me dit que la jeune fille ne parle jamais de son père en disant « papa » ou « mon père », mais toujours en disant « lui » ou « il ». Le choix des mots est très important. À un moment, à la question « c'est qui le problème ?», la jeune fille répond « c'est lui », avant d'ajouter plus tard « je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête et j'aimerais que ça ne se reproduise pas ». Les enfants auditionnés cette semaine-là ont 6, 8, 10, 13 ans. Après l'audition, la déposition est imprimé pour être signé par l'enfant. Ces auditions sont très fréquemment suivies par un examen médical, physique et psychologique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette unité est très particulière et rare, encore plus au sein d'un CHU. C'est l'idée initiale d'un regroupement d'associations appelé la Voix de l'Enfant. Le docteur Nathalie Vabre est pédiatre, coordonnateur de cette unité d'accueil des enfants en danger.
Donc là, en fait, on est dans le couloir du service de consultation de pédiatrie qui est au rez-de-chaussée du bâtiment de la pédiatrie. Et donc les enfants arrivent en consultation comme les autres enfants qui viennent pour n'importe quelle consultation. Ils arrivent aux admissions et puis en fait, ils vont rentrer dans le couloir des consultations avec une salle d'attente qui est commune à tous les enfants, avec une salle de consultation qui est dédiée et la salle d'audition qui est au fond, qui est dédiée aussi. Là. Donc on va s'asseoir dans la salle d'audition, puisque là on est dans la salle avec ses petits fauteuils, sa petite table et sa caméra. Donc c'est l'idée d'avoir quelque chose qui soit à la fois chaleureux, qui détourne pas trop l'attention de l'enfant. C'est-à-dire vous remarquerez que les jouets, il y en a très peu, ils sont rangés dans les tiroirs. C'est-à-dire que l'enquêteur peut jouer avec l'enfant s'il le souhaite pour entrer en contact avec lui, mais il n'est pas question non plus de trop détourner son attention sur d'autres choses. Vous remarquerez que les fauteuils sont petits parce qu'on a des petits enfants notamment. L'hôpital, c'est finalement un endroit où les enfants passent. Ils viennent pour eux, pour leur fratrie, pour leur famille, et donc c'est quelque chose qui est moins traumatisant qu'un lieu où il n'y a pas de passage d'enfants habituellement, comme à commissariat ou une gendarmerie, où normalement un enfant n'a pas à se rendre dans sa vie d'enfant. Le commissariat ou la gendarmerie n'est pas un endroit de vie habituel des enfants. C'est pas un lieu de passage des enfants. L'idée est d'éviter ce surtraumatisme. Et la Voix de l'Enfant, qui est une association qui a un regroupement de plusieurs associations, ayant vu comment travaillaient les Child Advocacy Center dans les pays nord-américains, c'est-à-dire des lieux où tout ce qui doit être fait pour qu'une infraction puisse être reconnue et la santé de l'enfant prise en compte est faite dans un même endroit. C'est-à-dire que l'enfant vient dans un endroit où il aura son examen, il peut voir une assistante sociale, il peut voir un avocat, les policiers, les enquêteurs vont être là pour l'entendre. Tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le parcours médico-judiciaire de l'enfant sont présents au même endroit, dans ce centre, dans ce Child Advocacy Center.
Et de cette inspiration nord-américaine sont donc nées ces unités d'accueil, comme celles que l'on peut voir à Nantes dans ce reportage. Il en existe ailleurs, dans d'autres villes en France. Ils sont proposés des consultations et des auditions par des gendarmes ou des policiers.
Et Nathalie Vabre nous parle également d'une étude très intéressante sur la douleur perçue par ces enfants maltraités, étude sur laquelle son équipe a travaillé.
C'est vrai que depuis longtemps, les équipes pédiatriques qui s'occupent de maltraitants se sont rendues compte à quel point un des symptômes qui peut venir alerter sur une éventuelle maltraitance, c'est un enfant qui présente un traumatisme très important et pour lequel on n'a pas de manifestation évidente de douleur. Par exemple, un enfant qui vient avec une brûlure très grave ou avec une fracture grave, un petit enfant qui a un an et demi, par exemple, qui a une brûlure très grave et qui pleure pas, qui, lorsque l'infirmière va lui mettre une perfusion, ne manifeste pas de signe de retrait. C'est-à-dire qu'à un an et demi, deux ans, eh bien, évidemment, on a des moyens. On met, par exemple, le gaz méopal, un gaz qui permet d'être détendu. On va mettre, évidemment, un médicament pour la douleur. On va mettre une crème qui permet d'endormir la peau, ce qu'on explique aux enfants pour que la perfusion soit le plus confortable possible. Pour autant, un enfant de cet âge-là, quand on va, même en lui expliquant et même avec tout ça, il a des mouvements de retrait. Il n'a pas envie de donner sa main spontanément pour mettre la perfusion. Enfin, voyez. Et là, on va avoir des enfants. On avait cette intuition depuis longtemps, tous les pédiatres qui s'occupent de maltraitance, de se dire, mais souvent après coup, on se rend compte que cet enfant, il n'a pas manifesté de retrait, il pleurait pas très fort, qui se laissent faire. Et puis on a des parents qui, au regard du traumatisme, ne nous alertent pas non plus beaucoup. C'est-à-dire que en général, les parents bien ajustés, quand ils sont aux urgences avec leur enfant qui a un traumatisme, ils nous interpellent et ils ont raison en nous disant, mais là il a mal, faut lui redonner quelque chose, vous n'avez pas quelque chose de plus fort, il a très mal avec sa fracture ou il a très mal avec sa brûlure. Et là, on se dit souvent après coup, mais là c'est vrai que les parents ne nous ont pas alertés sur la douleur, l'enfant non plus, très peu. Et donc, on a voulu faire une étude aux urgences pédiatriques de Nantes pour essayer de démontrer ça. Et effectivement, en comparant des enfants qui venaient pour des traumatismes où la cause accidentelle était évidente, un accident de la voie publique, enfin voilà, une blessure qui est due à quelque chose qui s'est passé devant plein de témoins, et puis des blessures qui, au fil de l'évaluation et de l'hospitalisation, se sont avérées être une situation de maltraitance qu'il fallait signaler. Et on s'est rendu compte qu'à leur arrivée aux urgences, eh bien, effectivement, les soignants avaient mésestimé, sous-estimé la douleur et n'avait pas donné les médicaments habituels. Et là, on voit arriver un enfant qui peut avoir une fracture inexpliquée, parents arrivant avec en disant, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il ne bouge plus la jambe, non, il n'est pas tombé, etc. Et se rendre compte que c'est qu'au bout de quelques heures, qu'au regard de cette blessure, on a pu mettre en place des médicaments suffisamment fort au regard de la blessure.
Une étude qui a été publiée par la revue nord-américaine Child Abuse and Neglect. Alors comment les enfants arrivent jusqu'à cette unité ?
Par des signalements, notamment par des éducateurs, des infirmiers scolaires, des médecins de famille, sur réquisition de la justice également, ou parce qu'ils passent par le CHU, que des blessures sont repérées sur place et que se pose alors la question d'une éventuelle maltraitance. On estime que 1 enfant sur 10 a été un jour en France victime dans sa vie de violence. Il est probable donc que certains passent par l'hôpital à un moment de leur vie. On évalue à 800 le nombre d'enfants qui viennent chaque année dans cette unité d'accueil d'enfants en danger à Nantes.
Alors, dans cette unité dédiée aux enfants victimes de violences, on peut croiser aussi des policiers, des gendarmes.
Oui, la plupart de celles et ceux que j'ai aperçus sont en civil, comme cette gendarme de la compagnie de Rezé qui attend un enfant victime pour une audition. Cette compagnie a géré 125 auditions de mineurs ici en 2018.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un accueil par la puéricultrice de l'unité. Et après, donc, elle va lui expliquer ce qui va se dérouler par la suite. Donc, elle va s'entretenir avec une gendarme, donc en l'occurrence moi, qui suis formée pour entendre les mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel. Voilà. Donc, on a fait une formation. Après, il va y avoir l'entretien avec la mineure. Et après, la mineure va, si besoin, être vue par un médecin et un psychologue du service.
Là, c'est une jeune fille qui a quel âge ?
Qui a une dizaine d'années, qui vient pour une infraction à caractère sexuel.
Et comment elle est arrivée jusqu'à vous ? Comment vous êtes arrivée jusqu'à elle ?
Alors après, là, c'est parce que ça a été la famille qui nous a informé des faits. Après, ça peut dépendre. Hein. Ça peut être un signalement de la cellule de renseignement, de recueil des informations préoccupantes. Ça peut être un transmis directement du parquet des mineurs de Nantes, qui nous donne une enquête. Plusieurs approches, en fait.
Vous entendez aussi la personne qui est mise en cause, en l'occurrence là, un jeune garçon un peu plus âgé qu'elle, ou quelqu'un de la famille, si c'est dans la famille que ça s'est produit?
Forcément, oui, on entend. L'enquête, c'est pour entendre toutes les parties concernées. Hein. Donc on entend la victime, on entend la mise en cause, on entend les témoins, on entend le maximum de personnes. Voilà, avant qu'il y ait une décision judiciaire. Puisque c'est le but, hein, c'est de savoir réellement ce qui s'est passé. On est quand même au pénal, donc c'est savoir s'il y a une infraction ou pas qui peut être matérialisée. C'est sa parole, donc si elle ne nous donne pas assez de détails, quand on va devoir confronter avec la mise en cause, si on n'a pas de détails et que lui nie ou ne reconnaît pas, on ne pourra pas lui dire « oui, mais la mineure dit ça, la victime dit ça », si on n'a pas recueilli vraiment le déroulement des faits.
Là, on a vraiment une salle d'accueil, en fait, avec une petite table, trois fauteuils, une toute petite chaise pour les enfants en bas âge, et puis quelques décorations au mur, des peluches. Et puis de l'autre côté, en fait, on a une vitre teintée.
C'est ça. Avec une caméra donc dans la salle d'entretien, avec des micros donc qui sont au plafond. Hein. Donc on explique à Winner hein, qu'il y a une caméra qui est là pour enregistrer toute la conversation, puisqu'après nous en fait on a un collègue qui est derrière donc qui suit l'entretien. Ça va être enregistré donc et gravé sur un DVD, et après on va faire une retranscription, voilà, de l'entretien donc sur un procès-verbal pour pouvoir le joindre en fait à la procédure.
Quel est l'intérêt pour vous, en tant que gendarme, de venir ici?
L'intérêt, c'est d'abord une prise en charge de l'enfant, donc du moment où elle vient pour expliquer ce qui s'est passé jusqu'à sa prise en charge médicale et psychologique, puisqu'un enfant, il est forcément stressé, un peu anxieux de ce qui va se passer pour lui, parce que c'est pas facile de raconter ce qui s'est passé. En général, ce sont des choses qui l'ont traumatisé, hein, en tout cas qui n'ont pas été faciles pour lui. Ici, on a des conditions où on n'a pas d'ordinateur. C'est-à-dire que c'est une discussion. Hein, c'est vraiment une discussion qui est engagée. Donc, ça ne va pas être du tout dans un bureau de gendarmerie ou de police qui est quand même pas très confortable. On est face aux mineurs et on discute.
Et là, vous êtes en tenue civile?
Alors moi, je suis en tenue civile parce que je fais partie d'une unité où je travaille en civil. Et puis surtout, on a mis en place un protocole donc canadien où on l'amène à lui demander un peu ce qu'il aime faire dans la vie pour déjà le détendre et puis pour voir un petit peu sa capacité intellectuelle et sa capacité de parler, de détailler. Après, on va lui travailler un peu sa mémoire épisodique. On appelle ça avec un entraînement, c'est-à-dire qu'on va lui faire parler d'une chose de sa vie à lui, donc soit un entraînement de sport ou soit une journée d'école, pour essayer déjà de lui faire comprendre ce qu'on va attendre de lui après quand il va parler des faits. Le but, c'est d'avoir des questions ouvertes. On va lui dire « parle-moi plus d'eux, dis-moi en plus sûr ». Tu m'as dit qu'il avait un pantalon noir, parle-moi plus du pantalon. Tu m'as dit qu'il tenait un couteau, parle-moi plus du couteau. Voilà. Donc après, c'est grâce à ça, en fait, le but, c'est de recueillir la parole de l'enfant la plus vraie possible, sans l'influencer. Ça, c'est très important, parce que les enfants sont influençables.
A contrario, une question fermée, qu'est-ce que ce serait?
Est-ce que papa est méchant? Qu'est-ce que vous allez dire? Oui ou non? Parle-moi plus de son papa. Petit à petit, on arrive en fait à lui faire dire comment est son papa. Alors il y a des enfants, des fois, qui ne veulent pas. Ils parlent très bien sur leur vie, et puis à un moment qu'on arrive au fait, j'ai pas envie, je te parlerai pas. Bon, on essaie de lui expliquer que c'est important pour nous, pour lui, mais après, on va pas forcer l'enfant à parler. On arrête l'entretien. C'est arrivé qu'on revoie des enfants, parce qu'ils avaient d'autres choses à dire après.
Vous vous interrogez des enfants qui ont quel âge?
Alors ça va de 3 ans, donc même si c'est un peu compliqué, hein, dès lors que les enfants commencent à parler. Et puis ça va jusqu'à 18 ans, puisque ici, en fait, c'est prévu pour les mineurs.
Et alors, ceux qui ont 3 ans, par exemple, ou 4 ans, 5 ans, est-ce que vous passez par d'autres moyens que la parole?
Bon, alors normalement, le protocole nous demande d'éviter de prendre des poupées ou des choses comme ça, puisque ça peut un peu influencer. Par contre, c'est vrai que lorsqu'ils sont tout petits, des fois, de matérialiser un corps avec un objet... Donc là, il y a des poupées, ici, dans les tiroirs, là. Donc des fois, on leur dit, tiens, et montre-moi, par exemple, ce qui t'a fait mal. Parce que souvent, à 3 ans, on sait peut-être pas dire l'intérieur du bras, ou on sait pas dire le pied, ou le ventre. Donc souvent, ils peuvent aussi nous indiquer, effectivement, sur des objets ou sur là où il y a eu quelque chose.
Vous passez parfois par le dessin aussi ?
Oui, on peut passer par le dessin. Dans ces cas-là, on saisit les dessins qu'on joint dans la procédure. Les histoires nous touchent, forcément. La personnalité des enfants, on va lui tenir la main si besoin, on va lui donner des mouchoirs, on va la rassurer, mais on n'est pas là pour nous lui montrer notre peine. Enfin, je pense qu'il n'est pas là pour ça, quoi. Il en a suffisamment, hein. On le met à l'aise et puis on écoute, en fait. On est là juste pour écouter, hein.
Madame, l'enfant est arrivé.
Je m'appelle Catherine Echelard, je suis puéricultrice, ça veut dire infirmière pour les enfants. Et donc je suis là, moi, pour vous expliquer ce qui va se passer. Pour qu'on puisse bien faire l'enquête, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui s'est passé, puis que ça ne se reproduise pas. Ce qui est important, c'est que toi, tu répondes en disant bien la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est réellement passé, ce que toi, tu te rappelles réellement.
La personne qui s'exprime, on l'a entendu, est puéricultrice.
Oui, c'est Catherine Echelard, la puéricultrice de l'unité. Elle assiste les consultations des médecins pédiatres et son bureau est à côté de la salle des auditions filmées. C'est donc elle qui accueille les policiers et les gendarmes et bien sûr les enfants. Quand elle le peut, elle prend le temps de leur parler et de les mettre en confiance pendant une dizaine de minutes avant qu'ils soient interrogés dans la salle par les policiers ou les gendarmes. Je la retrouve après l'une de ces mises en confiance, un peu plus tard dans la journée. Elle nous explique.
Alors c'est un petit garçon qui vit avec sa maman habituellement. Il y avait un droit de garde classique pour le papa et qui est suivi par une équipe éducative, parce qu'il y avait des histoires compliquées entre les parents, les ex-conjoints en fait. Et donc là, le petit garçon est entendu parce qu'il y a eu les éducateurs ont constaté des violences de la part du papa et des mises en danger au domicile du papa avec de la violence, la violence verbale, des actes violents, notamment des objets qui sont lancés au travers de la pièce, une vie affective du papa qui est pas stable du tout, avec de multiples compagnes qui passent, des règlements de compte avec d'autres personnes qui sont aussi par la violence, et donc ce petit garçon est entendu dans ce contexte là parce que c'est pas un milieu très, très apaisé, très serein pour pouvoir bien grandir. Alors je lui ai demandé est-ce que t'es inquiet, et il m'a dit oui je suis inquiet parce que je vais vous dire que j'ai fait des bêtises et que mon papa il met des claques derrière la tête. Donc moi j'ai repris avec lui en lui demandant mais qu'est-ce qui t'inquiète, c'est le fait que ton papa il sache que t'as fait des bêtises ou c'est le fait que ton papa il sache que t'as dit que il te mettait des claques? Et là il m'a dit non, c'est le fait que mon papa sache que j'ai fait des bêtises. Donc à ce moment-là, j'ai repris avec lui en disant que tous les enfants faisaient des bêtises, c'était normal, c'était comme ça qu'on apprenait et qu'on devenait grand, et que les parents, ils ont le droit de pas être d'accord, ils ont le droit d'être en colère, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de taper pour exprimer ce désaccord.
Et vous lui avez aussi dit que son père ne verrait pas la vidéo de son audition.
Voilà, je lui ai dit qu'en aucun cas, cette vidéo n'était accessible à ses parents, que c'était uniquement les gendarmes et le procureur, et ça, je le dis à chaque fois, c'est vraiment très important pour les enfants, ils ont vraiment cette inquiétude, cette crainte. Alors par peur de représailles, de recevoir des coups supplémentaires ou simplement par peur de décevoir leurs parents. Et c'est important de pouvoir refaire passer des messages comme ça aux enfants, de bien refixer le cadre, que c'est interdit de taper, que les enfants aient bien ça en tête, qu'ils l'ont entendu à plusieurs reprises. Voilà. Donc ça, c'est la mise en confiance, c'est le fait que l'enfant puisse comprendre que ne pas dire, ça rend encore plus triste, encore plus malheureux, ça crée encore un mal-être encore plus important après. Et par exemple, il y a l'autre jour, il y a deux enfants qui sont venus en audition, qui sont là pour des violences intrafamiliales, dont le père est mis en cause. Donc au cours de la mise en confiance, je parle de la vérité et du mensonge, les notions de vérité et de mensonge avec la différence. Et je donne en exemple la table qu'il y a au milieu de la salle, qui est bleue. Et donc je dis, par exemple, si je te dis que la table est rouge, ça c'est un mensonge. Alors si je te dis qu'elle est bleue, c'est quoi? Donc le petit garçon me dit, c'est la vérité. Et il surenchérit en me disant, si mon petit frère il dit qu'il a des bleus sur le genou et que c'est parce qu'il a reçu des coups de pelle, ça c'est un mensonge. Donc voilà, donc pour moi c'est un exemple d'un enfant qui fait un, comme un appel à l'aide ou comme voilà qui veut nous signaler qu'il y a, quelque chose de l'ordre d'inquiétant sur cette histoire-là et que ben c'est embêtant, c'est inquiétant. Je voudrais bien protéger mon papa, mais en même temps, je voudrais quand même qu'il y ait des choses qui soient dites. L'histoire du coup de pelle, non, c'est quand même pas banal pour un enfant. Donc voilà, c'est un espèce de petite. Je vous lance une perche, vous en faites ce que vous voulez après. Voilà, c'est la vérité de mon frère, mais moi, c'est pas ma vérité et c'est à nous d'en faire quelque chose après.
Priorité santé, reportage.
Nous poursuivons, Charlie Dupuis, cette immersion dans l'unité pour enfants en danger du CHU de Nantes, avec une urgence qui vient d'arriver.
Oui, un appel passé dans la matinée. Une famille a urgemment besoin d'être mise à l'abri et protégée. Une mère et ses deux enfants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, dans cette unité, nous sommes à un maillon de la chaîne. Au début, en fait, de la chaîne judiciaire, ce n'est pas un lieu de suivi, mais un lieu de passage dès lors que des violences sont détectées. On retrouve le docteur Margot Lemel, pédiatre, médecin légiste. Elle est en train de préparer rapidement la salle de consultation et elle sera épaulée par Catherine Echler, la puéricultrice que l'on a entendue tout à l'heure. Vous sortez des jouets ?
Oui. C'est parce que souvent, comme les consultations sont un peu longues, on sait que c'est difficile pour les enfants de pouvoir rester attentifs tout du long de la consultation et que souvent ils arrivent à faire deux choses en même temps, à comprendre qu'on parle de choses difficiles qui leur sont arrivées et en même temps à pouvoir jouer et voilà. Et puis nous, ça nous permet aussi de voir est-ce qu'ils sont capables de jouer, ce qui est très important pour un enfant, est-ce qu'ils prennent part à des activités qui sont adaptées à leur âge, de voir leur développement psychomoteur. Est-ce qu'ils sont aussi, ils arrivent à se détacher un peu de leurs parents pour aller jouer, ou est-ce que c'est impossible pour eux? Ça nous donne déjà pas mal d'informations avant même de les avoir examinés complètement. On a plusieurs jeux, on a aussi pas mal de Playmobil, il y a de quoi dessiner, il y a des jeux pour un peu tous les âges, en fonction, on s'adapte, c'est pour ça qu'on regarde quel âge ils ont avant d'installer les jeux, pour qu'on mette des jeux adaptés.
Et là, quel âge ils ont?
Là, c'est une jeune fille qui doit avoir 14 ans et son demi-frère qui a un an.
Donc ça...
de 14 ans, elle ne va pas jouer avec la dinette, mais possiblement celui de 1 an. Il y a des petits Lego.
Là, ce rendez-vous vient d'être calé un peu en urgence.
Oui. En fait, c'est une maman qui, visiblement, s'est présentée au commissariat pour demander à être mise à l'abri parce qu'elle est victime de violences conjugales. Et donc, ses enfants sont victimes... des violences aussi qu'elle subit. Je ne sais pas si eux ont vécu des violences directes ou pas. L'auteur des violences a été placé en garde à vue, donc les policiers nous demandent de recevoir en urgence ces enfants pour voir comment ils vont sur le plan de leur santé, c'est-à-dire de leur santé physique. Est-ce qu'il y a des, par exemple, des traces de coups, des traces de violences, et comment aussi ils vont sur le plan de leur santé psychologique, de leur état psychique.
Donc voir si eux aussi ont été victimes de violences.
Alors on considère de toute façon que lorsque les enfants et même les ados assistent aux violences d'un des parents sur l'autre, c'est comme si eux subissaient directement les violences. Mais ils peuvent aussi en plus des fois être victimes de violences directes sur eux-mêmes. Mais là, dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est le cas.
Allez-y, rentrez.
Et ben, on va vous recevoir tous ensemble dans un premier temps. Et puis peut-être qu'après... Donc moi je m'appelle Margot Lemel, je suis pédiatre. Tu sais ce que c'est les pédiatres? C'est les docteurs pour les enfants et les ados. Voilà. Et donc là t'es accompagnée de ta maman, si j'ai bien compris,
oui.
Et de ton demi-frère. Est-ce que t'as compris pourquoi tu venais nous voir là un peu en urgence à l'hôpital?
Non, c'est pour savoir si je suis bien dans ma tête.
Ouais, entre autres. Qu'est-ce que vous lui avez expliqué, vous, madame ?
Moi, c'est la police qui lui a expliqué, parce qu'on n'a pas eu le temps trop de se voir. Je ne savais pas, le rendez-vous non plus consistait à quoi.
Ouais, c'est un petit peu dans l'urgence, tout ça.
Oui, oui.
Ta maman, elle est allée voir les policiers parce qu'il y avait eu des violences. Et qu'elle s'inquiétait pour elle et qu'elle s'inquiétait pour vous. C'est ça ?
Oui.
On a bien compris.
Oui.
Et que, du coup, nous, les policiers, ils se demandent comment vous allez. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent de te recevoir aujourd'hui. C'est pour savoir comment tu vas, comment tu te sens, effectivement, comme tu dis, comment ça va dans ta tête, comment tu te sens sur le plan psychologique, et puis aussi comment va ton corps. C'est-à-dire que souvent, on propose aux enfants et aux ados de les examiner, de les peser, de les mesurer, de faire un examen comme quand tu vas chez ton médecin. On n'est pas des policiers, on ne va pas te redemander de te reposer plein de questions comme les policiers ce matin. Je pense qu'ils t'en ont déjà posé plein. Ouais. Toi, tu as été entendu par les policiers ? Donc le but, c'est pas de refaire la même chose, mais c'est de comprendre un peu comment ça s'organise la vie pour toi, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et puis après, dans un deuxième temps, qu'on te reçoive toute seule, sans ta maman. Est-ce que ça te va comme ça ? Toi, t'es d'accord. T'es en quelle classe ?
Quatrième.
Ça se passe comment, la quatrième ?
Ça va.
Tu me dis ça va, mais j'ai l'impression que c'est ça va un peu bof.
Les notes, c'est autre chose.
Personne qui t'embête ?
Non.
Non. Et c'est pour les notes que c'est plus difficile.
Ouais.
Ça a toujours été difficile ou c'est là récemment ?
Bah, au début de l'année, ça allait un peu, mais là, je travaille plus. J'ai pas envie de travailler.
D'accord. Toi, tu dirais que ta vie, en général, elle est comment ?
Compliquée.
Ouais. C'est quoi le plus compliqué, tu dirais ?
C'est à la maison.
Ouais. Moi, je me dis peut-être que je me trompe. J'ai le droit de me tromper, alors il faut que tu me dises. Mais j'imagine qu'il y ait pu y avoir des choses violentes qui ont été difficiles pour toi.
Oui.
C'est ça ?
Là, si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi ?
Que ma mère, moi et mon petit frère, tranquille à la maison.
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des violences à la maison. J'ai bien compris ?
Oui.
Ouais. Comment tu penses que... Est-ce que tu penses que... S'il n'y avait pas ces violences-là à la maison, ta vie, elle serait différente ?
Oui.
Qu'est-ce qui serait différent, par exemple ?
Ben, on s'amuserait mieux. Je sais pas, ce serait mieux, c'est tout.
Toi, ça t'arrive des fois d'être triste ?
Oui.
Ouais. Est-ce que des fois, quand on est très triste, on pense à des choses, par exemple, comme à la mort ? Toi, ça t'est déjà arrivé ?
Non.
Alors, avant qu'on fasse sortir ton petit frère et ta maman, vous, madame, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiétaient en particulier pour votre fille, outre la situation qu'on comprend bien, qui est difficile ?
Non, à part ça, les violences dont elle est témoin, les insultes, les coups, les menaces de mort. Voilà, ma fille, moi, ça se voit que ça fait 2 ans, même à l'école, qu'elle va pas bien depuis mon mariage, quoi, en fait. Les résultats scolaires, ça se voit qu'elle se laissait complètement... Allez, quoi.
Toi, des fois, t'as l'impression que c'est difficile de te concentrer en classe ?
Ouais, en vrai, je pense pas trop à l'école. Genre, ouais. Je calcule pas.
Mais nous, on sait que ça peut arriver et que c'est pas de ta faute, ce qui se passe. On sait bien que quand il y a plein de choses difficiles dans la tête, on n'arrive pas à se concentrer à l'école. C'est comme les adultes. Les adultes, quand ils ont plein de soucis, ben, ils ont du mal au travail, à bien faire leur travail. Et on sait que pour les enfants et les ados, c'est pareil. Que c'est difficile de se concentrer quand on a trop de soucis dans la tête. Est-ce qu'à part les résultats, il y a eu d'autres choses qui vous ont alerté ou inquiété ?
Bah déjà, elle était en surpoids, donc ouais. Là, elle est encore plus en surpoids. Bah, la nourriture, vous voyez, quand ils ont des enfants qui ont des problèmes, c'était une enfant vachement, vous voyez, un clown, quoi. Puis là, elle ne l'est plus du tout. Donc, je ne retrouve pas ma fille.
Avant que vous soyez enceinte, il y avait déjà des violences pour vous ?
Il y avait déjà des violences.
Pendant la grossesse aussi ?
Pendant la grossesse.
Il y en a toujours eu, en fait.
On a toujours eu. Voilà, c'est ça, c'est engendré en pire, quoi.
Il y a eu des violences directes sur les enfants ?
Non. Non, non. Un jour, il lui a mis un coup de portable comme ça, mais après, il lui casse ses affaires, ses portables.
Ça, c'est de la violence.
Ça, c'est quand même de la violence, ouais.
Là, vous avez pu prendre quelques affaires avec vous ?
J'ai fui hier, je suis arrivée avec 8 sacs, vous voyez...
Ah oui. Vous avez été drôlement courageuse de pouvoir faire ce que vous avez fait aujourd'hui.
J'ai pu m'entretenir avec l'adolescente après sa consultation. Sa mère nous a laissés pour être à son tour examinée dans une autre partie de l'hôpital réservée aux adultes.
C'est compliqué, mais j'espère que ça va aller mieux.
Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, toi, là ?
C'est qu'ils ressortent et qu'ils nous trouvent.
Qui ça?
Mon beau-père. Il va nous tuer ou un truc comme ça, parce que c'est un malade.
Est-ce que toi, t'as déjà eu peur pour toi? Je sais que ta mère a été victime de violence. Est-ce que toi, tu as été victime aussi, ou tu as eu peur?
Oui. Bah, on s'est battu. Bah, en fait, il me tenait, mais je me débattais, quoi. Mais il avait un truc en fer, il voulait, mais il n'a pas eu le temps. Son cousin, il est venu, il nous a séparés.
Et est-ce que tu t'es aussi inquiétée pour ton petit frère, oui, qui a un an?
Oui, parce que il a déjà reçu un coup. Mon beau-père, il a voulu mettre une droite à ma mère, mais c'est mon petit frère qui l'a eu. Bah, il a voulu la taper, elle, mais il était dans ses bras, et ma mère, il a mal visé, et ça allait sur mon petit frère. Il était tout rouge. C'était un nourrisson, ça faisait pas longtemps qu'elle avait accouché, ma mère. Bah, après, ma mère, elle a appelé ma tante, et on est parti de la maison. À chaque fois, en fait, ça faisait tout le temps ça. On partait chez ma tante, mais on revenait à chaque fois.
Et là, comment tu vois la suite, alors?
Bah, j'espère que ça va aller. Ce soir, on redort dans un hôtel d'urgence, ou je sais plus comment ça s'appelle.
Si tu devais dire un mot pour décrire ton état aujourd'hui, ton état d'esprit, ton émotion, qu'est-ce que tu dirais comme mot?
Mais j'en ai deux. Genre peur, mais contente. Genre je suis contente parce qu'on est débarrassé de lui, mais j'ai peur qu'il revienne.
Et Charlie, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour cette adolescente?
Elle devra consulter un médecin généraliste pour discuter notamment de problèmes de poids qui la complexent. L'équipe médicale lui a aussi recommandé un suivi psychologique. Et pour elle, sa mère et son petit frère, l'urgence sera d'abord de se loger dans un hôtel, puis dans un foyer. À noter qu'un signalement avait été effectué pour cette jeune fille au collège, au vu de son état psychologique. On retrouve le docteur Margot Lemel, pédiatre médecin légiste. C'est elle qui a consulté la jeune fille arrivée avec sa mère en urgence.
Alors malheureusement, c'est un cas assez classique qu'on est assez fréquemment amené à rencontrer ici dans l'unité de l'accueil des enfants en danger. Après, ça reste classique parce que les violences conjugales, c'est des violences qui sont extrêmement fréquentes, qui sont, je pense, de mieux en mieux dépistées, donc on en voit de plus en plus. Dans ce cas particulier, on a quand même affaire à des violences qui sont extrêmement graves et importantes, avec finalement l'attitude de cette maman et de cette jeune fille qui sont assez typiques des victimes de violences chroniques et répétées. Et on voit bien aussi à quel point c'est difficile pour ces deux femmes de reconnaître les violences qu'elles subissent. Quand on demande à madame s'il y a déjà eu des violences directes sur sa fille, elle dit non. Et puis elle finit par dire « Ah, il y a juste eu la fois où il s'est passé ça avec le téléphone portable. Ah, puis il y a juste eu la fois où ils en sont venus aux mains. » Et pour la jeune fille, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les violences, c'est tellement chronique et répété qu'elles n'arrivent plus à distinguer ce qui est de la violence de ce qui est pas de la violence. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi assez classiquement. Elle explique bien que voilà, qu'elle a eu, que ça fait longtemps que ça se passe comme ça à la maison, que à plusieurs reprises, elle a eu peur pour sa vie, peur pour la vie de sa maman, que c'est aussi pour ça qu'elle est déscolarisée, c'est pour pas laisser sa maman toute seule parce qu'elle a peur de ce qui va lui arriver.
Ah, parce qu'elle ne va plus à l'école maintenant.
Alors, elle a beaucoup d'absentéisme scolaire qu'elle explique par le fait qu'elle veut pas laisser sa mère seule, en fait, parce qu'elle a peur de pas retrouver sa mère quand elle va rentrer de l'école parce que sa mère sera morte.
Et vous avez dit à cette jeune fille aussi, ce n'est pas de ta faute.
Oui, c'est important qu'elles entendent que et cette mère et cette jeune fille, qu'elles sont victimes, que souvent on sait que la réaction assez fréquente des victimes, c'est la culpabilité, de se dire que ces enfants et ces ados, ils se disent souvent que s'ils sont tapés, c'est parce que c'est de leur faute, c'est parce que ils ont pas bien fait leurs devoirs, parce qu'ils ont mal rangé leur chambre, parce qu'en fait ils sont rentrés une minute après, et que c'est important de pouvoir leur dire et que entendre d'un professionnel que non, ils sont victimes, et ils sont victimes de choses qui sont en plus punies par la loi.
Et quand vous dites que vous examinez, alors là, dans le cas de cette jeune fille, par exemple, vous regardez en fait son corps, s'il y a des traces?
On fait comme un examen classique, on les pèse, on les mesure, pour savoir aussi, est-ce qu'il y a des signes de, par exemple, de carence alimentaire, de troubles alimentaires, des surpoids, des obésités, Des fois, dans les maltraitances chroniques, on peut avoir aussi des retards staturo-pondéral. Et puis, un examen classique, on écoute le cœur, les poumons, le ventre, on regarde la bouche, les yeux, les jambes. Et effectivement, on regarde aussi au niveau cutané, est-ce qu'il y a des lésions cutanées traumatiques qui peuvent être compatibles avec des violences infligées. Sachant que dans la plupart des cas, on voit quand même les enfants assez à distance des violences et que... C'est souvent les lésions ont disparu. Alors elle dit qu'il n'y a jamais eu de trace sur son corps de violence qu'elle a subie, mais que des fois ça peut arriver qu'il y en ait eu et qu'on ne les voit pas nous au moment de la consultation. On va dire que dans le cadre de cette adolescente, il y a surtout des traces psychologiques. On voit qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatique qui est assez important. Et maintenant, on sait bien que les conséquences pour leur santé, c'est des conséquences à court et moyen long terme. Et c'est des enfants qui sont plus à risque, bien plus tard, même dans leur vie d'adulte, d'avoir plus de pathologies, y compris des pathologies somatiques comme des diabètes, des maladies cardiovasculaires, etc., que d'autres adultes qui n'ont pas subi de violence.
Charlie, on considère les enfants témoins de violences conjugales comme des victimes elles-mêmes de violences, c'est bien ça?
Oui, avec des risques plus importants de contracter des maladies chroniques par la suite, comme le docteur Margot Lemay le soulignait et comme le montrent d'ailleurs de nombreuses études. Alors les enfants victimes de violences sexuelles sont également pris en charge au sein de cette unité. Des violences sexuelles qui peuvent être commises par un voisin, un inconnu ou par un membre du cercle familial, comme c'est vraisemblablement le cas pour cette jeune victime. Extrait choisi et réenregistré d'une audition filmée.
Il a fait des choses pas bien sur moi. Bah après, je l'ai dit à maman, du coup.
Parle-moi des choses pas bien qu'il t'a faites.
Bah, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, en fait.
Alors, explique-moi ce que toi, tu as vécu.
Bah, quand il le faisait, ça faisait mal. Et puis maman, elle savait pas. Il voulait que ça reste entre nous. Quand maman, elle allait faire l'école de la route pour avoir son permis. C'était quand elle était partie faire son code. Il faisait ça, et puis après, vu qu'il savait à peu près l'heure où elle rentrait, maman, il me disait de me rasseoir où j'étais et de faire comme si de rien n'était, en jouant avec ma tablette.
Donc il voulait que ce soit un secret entre vous? Donc explique-moi exactement où ça se passait et qu'est-ce qu'il te faisait. Tu me disais que ça faisait mal. Qu'est-ce qui faisait mal?
Bah, il faisait des choses pas bien.
Alors, c'est quoi ces choses pas bien? Décris-les-moi. Dis-moi en plus. C'était avec quelle partie de son corps qu'il te faisait mal?
Son pipi.
Son pipi? Alors, explique-moi. Qu'est-ce que c'est son pipi? Au-dessus de tes vêtements, tu peux me faire voir qu'est-ce que c'est son pipi?
Le zizi.
Donc son pipi, c'est le zizi. Qu'est-ce qu'il faisait avec son zizi? Explique-moi.
Bah... Il montait sur moi, puis bah il mettait son zizi dans mes fesses et il a fait ça 3 ou 4 fois. Et il faisait ça dans le salon, sur le canapé. Et maman savait rien du tout. Et puis voilà.
Ce récit hein, avec des mots d'enfant pour décrire ce qu'il est si difficile à raconter.
Oui, et ces mots comptent, et il s'agit d'être le plus précis possible. Alors quelle prise en charge durable pour ces enfants? Nous retrouvons le docteur Nathalie Vabre, responsable de cette unité.
Alors on n'est pas les seuls à travailler comme ça, mais ce qu'on défend et qui est particulier, c'est justement ce modèle à double entrée. Double entrée, c'est-à-dire qu'on peut y venir sur mandat judiciaire pour un examen sur réquisition, une audition et un examen sur réquisition, mais on peut aussi y venir en consultation de dépistage adressée par un médecin traitant ou parce qu'on a été, par exemple, une maman ou un papa est venu aux urgences en disant « j'ai peur que mon enfant ait été maltraité pour telle et telle raison », eh bien, on va lui dire aux urgences « on ne va pas le voir maintenant, mais vous allez à la consultation de l'unité d'accueil des enfants en danger ou bien aussi dans les services, dire ben, là par exemple le service de chirurgie peut se dire ben, là cette fracture de ce bébé, on comprend pas, on vous appelle, et nous on va pas dire ah ben non, faites le signalement ou tant que le... Non, on y va parce qu'on est une unité qui va faire aussi du dépistage.
Et vous vous déplacez dans les services?
On se déplace dans les services. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un circuit dédié à l'enfant, c'est-à-dire un parcours médico-judiciaire spécifique pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il vient dans un lieu, que ce soit pour un dépistage, que ce soit pour son audition, que ce soit pour un examen sur réquisition pour constater le retentissement des violences et le retentissement des violences, ce doit être un lieu dédié à l'enfant. Heureusement, un auteur, il est présumé auteur. Eh bien, un enfant plaignant, c'est un enfant qui est présumé victime et surtout présumé ayant besoin de soins. D'ailleurs, même si après l'enquête n'aboutit pas, eh bien l'enfant, au moins, il aura bénéficié de ses premiers soins et de voir s'il y a besoin de faire autre chose, s'il y a besoin de l'orienter vers des soins psychologiques, vers des soins réguliers avec le médecin traitant, enfin voilà.
Il y a la question de repérer ses enfants aussi en dehors de l'hôpital. Il y a la question des médecins de famille et puis la question de l'école. Pour vous, où en est-on là-dessus? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer, en
Alors,
fait?
Alors déjà, la formation près de tous les professionnels de santé, mais aussi... pas seulement, c'est-à-dire et aussi de tous les professionnels au contact d'enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une formation qui va être, où on va travailler auprès d'enfants, c'est-à-dire qu'on soit un enseignant, qu'on soit un éducateur, qu'on soit un futur soignant, doivent avoir entendu parler des maltraitances, de leurs conséquences et de la prévention possible. Ça doit y avoir quelque chose de commun, un socle de connaissances communes pour tous les professionnels.
C'est aussi que ça peut être compliqué pour certains médecins de famille qui sont proches de la famille aussi de faire ce signalement-là.
Oui, c'est pour ça que... Bon, alors d'abord, plutôt qu'un signalement, ils peuvent faire une information préoccupante, c'est-à-dire dire aux familles « J'écris au conseil départemental parce que je suis préoccupée. » Il faut que les médecins traitants sachent ce que c'est, cette information préoccupante. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels du conseil départemental qui vont venir rencontrer prévenir la famille, d'abord demander un rendez-vous dans leurs locaux, puis ensuite demander à se rendre dans la famille, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait progressivement, et voilà.
Par rapport à l'école, est-ce que vous avez le sentiment aussi que les médecins scolaires sont suffisamment...
Alors, ils ne sont pas suffisamment nombreux, mais ils sont très volontaires et formés. La question, c'est leur petit nombre. Alors, quand on dit médecins scolaires, il ne faut pas oublier les infirmières scolaires, parce qu'elles sont en capacité de faire ce repérage, elles savent faire. Alors, il n'y a pas un médecin et une infirmière pour chaque établissement. Hein. Vous savez bien qu'actuellement, un médecin scolaire, il est souvent à cheval sur 3-4 établissements. Donc, il faut renforcer ce qui existe.
Et le message est clair, hein, les violences sont un problème de santé publique. Un plaidoyer du docteur Nathalie Vabre à la tête de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes. Reportage signé Charlie Dupiot. Merci Charlie.
Merci.
Et à la réalisation Didier Bleu. Reportage que vous pouvez retrouver sur notre page internet Priorité Santé, sur l'appli RFI Pure Radio. Et merci de nous avoir suivis. Merci à toute cette équipe, hein, de l'unité d'accueil des enfants en danger d'avoir reçu Priorité Santé pendant ces journées en immersion. Demain, nous allons parler de la présence, de l'impact des produits chimiques dans les produits de consommation courante, cosmétiques, produits d'entretien ou de décoration intérieure. Quelles conséquences pour la santé? Quelle alternative? On se retrouve à 9h10 temps universel. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.